Parking Nomade.
Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Parking Nomade qui s'intéresse à la lecture et à la littérature dans tous leurs états. Aujourd'hui, je reçois le critique, journaliste et essayiste Robert Lévesque qui vient de publier un essai, disons-le, délectable pour qui aime la littérature, les arts, la vie qui passe, toutes choses admirablement malaxées par Robert Lévesque dans ce livre. Le titre « Digression » et c'est paru aux éditions du Boréal dans la collection papier collé. Robert Lévesque, bonjour.
Bonjour Marie-André.
Merci d'être là. Je vais commencer par vous citer, parce que c'est comme ça d'ailleurs qu'on doit commenter la littérature. Il faut retourner au texte. « J'aime écrire n'importe quoi, n'importe quand, mais pas n'importe comment. » Alors, écrivez-vous page 16 de votre livre. La formule n'est pas seulement jolie, à mon avis, elle est surtout parfaitement juste lorsqu'il s'agit de traduire la nature, l'esprit de ce recueil d'essais qui, en réalité, n'en forme qu'un. Le style fait donc foi de tout. C'est le style qui l'emporte, non?
Oui, on a commencé à me qualifier de styliste depuis les deux ou trois derniers bouquins que j'ai publiés, recueils. Mais je vous rappelle qu'il s'agissait beaucoup de recueils d'articles ou de chroniques auparavant. Mais là, vraiment, depuis ces deux derniers, déraillement et puis digression, c'est écrit pour le livre, en fait. Et quand vous dites essai, j'ai toujours un peu l'impression que je ne sais pas exactement ce que je fais. Parce qu'un essai, normalement, on va dire un essai, il doit contenir une thèse ou enfin une étude, une démonstration et tout. Mais d'un autre côté, ce n'est pas de la fiction que je fais. Et je parle de littérature, je parle d'écrivain, je parle de cinéaste ou différents artistes, si vous voulez, différents arts. Et c'est, je vous le dirai bien franchement, vous l'avez reconnu, c'est l'amour d'écrire, la passion d'écrire qui me mène. Donc, est-ce un essai? Disons qu'on classe ça dans l'essai parce qu'on ne sait pas où le mettre. Ce sont des textes, en fait. J'écris des textes.
Oui. On peut, de toute façon, les catégories, elles montrent vite leurs limites en matière de littérature.
Oui, c'est vrai. Et l'absence de limites est une chose qui, pour moi, est évidemment ça rejoint la liberté, quoi. Oui.
Mais tout de même, vous l'avez écrit, on n'écrit pas n'importe... Vous ne voulez pas écrire n'importe comment. Donc,
non.
Le style, la manière, la forme et le fond sont étroitement liés dans ce livre.
Oui.
Je vais vous poser une question à 10 000 $. Qu'est-ce que le style? À quoi le reconnaît-on? À quoi le distingue-t-on, par exemple? Vous êtes aussi un critique, là.
Oui.
Alors, du maniérisme littéraire, avec quoi on le confond souvent?
Moi, je dirais peut-être que le style, c'est le regard. Le regard que celui qui écrit porte sur la vie, donc porte sur la littérature, sur les choses de la vie. Et je crois que de ce regard, cette façon de voir, de lire, forcément crée l'approche. Donc le style, la façon de lire. Deux personnes peuvent lire de façon tout à fait différente un même ouvrage, mais c'est la façon d'en rendre compte. Moi, ça vient de mon métier de journaliste d'abord et avant tout, donc de chroniqueur. J'ai été formé dans le journalisme, donc j'ai à rendre compte de mes lectures ou de mes passions ou de mes haines. C'est mon regard, je dirais, qui fait le style.
Et la phrase après se met au service, après et pendant, se met au service du regard. C'est un peu ça, au fond, qui...
Tout à fait.
Et ça suppose aussi du travail. Ce n'est certainement pas... Ça a l'air de couler de source, mais le vrai travail stylistique fait en sorte que le travail disparaît.
Oui, absolument. Et il faut arriver à la fluidité, comme on dit quand on écrit. La fluidité, c'est l'essentiel, dans le fond. Chez moi, c'est ce que je vise. On dit toujours... Si on parle souvent en littérature de la petite musique de quelqu'un, ben on est là-dedans. La musique, elle est fluide. Et on a des modèles aussi. C'est que je suis, avant d'être un écrivain, je suis un lecteur. Et quels sont les écrivains que j'aime? Voilà où on peut commencer à me trouver.
Mais en tout cas, un de ces écrivains, et il se trouve que c'est un maître styliste également, c'est Céline.
Oui,
Louis Ferdinand Céline, c'est l'un de vos maîtres. Avec Samuel Beckett,
qui sont très différents, remarquez. Tout à fait. Au niveau de l'écriture et au niveau de la personnalité de l'homme. Mais oui, ce sont deux personnages.
Mais ça, c'est le privilège du lecteur de pouvoir cohabiter avec des gens, des auteurs très différents.
Exactement.
Les bibliothèques peuvent s'accommoder
exactement.
De ce genre de
Vous avez vu que dans mon livre, on peut rencontrer Gabriel Leroy, par exemple, encore une fois, en même temps qu'on rencontre Rimbaud, Céline, Barthes, des écritures dans lesquelles je me promène.
Oui, on va peut-être, pour donner, mettre le lecteur en appétit, voir un peu comment ça commence. Là, je me fais l'écho de votre début qui se fait l'écho, évidemment, de Voyage au bout de la nuit de Céline. Alors, vous allez à vélo dans les rues de Montréal.
Oui.
Et là, il y a ces rues, c'est de Bullion, Elmire, de Varennes, qui vous rappellent l'histoire de France.
Oui.
Et par association, dérive, digression, vous partez en roue libre. Et voilà Céline qui apparaît.
Oui.
Et avec son début fameux, son incipit. Et voilà comment le livre commence. Et là, vous avez cité quelques noms. Puis c'est un désordre étudié, mais tous ces noms vont s'engouffrer. Buñuel, le cinéaste, Bory, le critique de cinéma, Alfred Jarry, Geneviève Bugeaud, le peintre Degas. Et puis, il y a même un jeune collégien de Matane appelé Robert Lévesque dans le livre.
Oui.
Et c'est magnifique. Alors, le moins, vous avez dit, j'ai été formé par le journalisme, fort bien, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que la règle journalistique du droit au but, elle est joyeusement violée. Et c'est tant mieux. Vous n'êtes plus journaliste, là, quand vous écrivez
de la sorte. D'ailleurs, dans les faits, je ne suis plus vraiment journaliste, quoi qu'on l'ait toujours. On le demeure toujours, notre façon de lire l'information et tout. Mais c'est vrai que je deviens de plus en plus écrivain. Et c'est vrai que, comme vous disiez, vous nommiez les gens qu'on rencontre, à partir du déclic que j'ai eu en vélo dans les rues de Montréal, où je cherchais à la fois à commencer un livre et à la fois un titre. Parce que pour moi, des formations professionnelles, sans doute, le titre est très important. Et je le dis dans ce premier texte que j'ai eu l'illumination. Pourquoi je n'appellerais pas ça de digression? Puisque ce que j'aime, c'est me promener sans trop de limites, faire ce que Montaigne appelait des sauts et gambades. Loin de moi l'idée de me prendre pour Montaigne, mais cette façon, avec une totale liberté, de se promener. Et vous nommiez des gens, et ces gens-là reviennent. J'ai fait un certain nombre... de Mondou, on pourrait dire un bassin de personnes, d'œuvres dans lesquelles circulent. Alors, il y a bien des choses que j'ai éliminées parce que je me suis dit « Ah, mais là, ça va pas. » Et je savais que si je parlais de Buñuel, d'abord, c'était parce que j'avais un film de Buñuel dans la poche de mon vélo lorsque j'ai eu l'idée du titre. Et tout ça, et en parlant de Buñuel, je me suis mis à parler de Jean-Louis Bory, par exemple, qui est un grand critique de cinéma que j'admirais. Ensuite, ça, c'est une espèce de cercle que j'ai créé, dans le fond. Et c'est vrai que ça s'approche d'une certaine fiction, sans en être, puisque les 20 textes qui sont là-dedans sont peuplés de... Mondou, j'ai fait le calcul, 32 personnes, dont ma mère... Avant ma naissance, un chapitre, je regarde une photo de ma mère avant ma naissance. Et à part ma mère, qui est une chose évidemment intime, il y a 32 personnes qui sont là-dedans et qui peuvent revenir d'un texte à l'autre, d'un texte à l'autre, et autour des trois grands écrivains qui, dans l'ordre chronologique, qui pour moi sont mes passions, Rimbaud, Céline, Beckett.
La littérature française pour les lecteurs, pour les jeunes lecteurs dans la vingtaine, dans la trentaine, elle ne représente plus ce phare qu'elle a pu représenter pour la génération pour le Canadien français cultivé des années 50, par exemple, ou 60.
Oui.
Est-ce que vous le regrettez, cette éclipse de la littérature française dans les consciences et les cœurs, cette éclipse présumée?
Je ne le regrette pas vraiment parce que je ne voudrais pas avoir l'air de celui qui dit c'était mieux avant. Hein. J'imagine que les générations passant, chaque génération a trouvé ses auteurs, ses références et tout. Et c'est sûr que peut-être qu'aujourd'hui, la jeunesse, comme moi quand j'avais 20 ans, vont trouver peut-être... peut-être que je trouvais trop ma littérature dans la littérature française, peut-être aussi. C'est vrai qu'on me qualifie de francophile, etc. Mais je vous ferai remarquer que j'ai lu la littérature américaine presque autant, ou italienne, etc. Mais c'est vrai que je viens d'une génération... j'ai fait mes études de ce qu'on appelait les humanités, le véritable cours classique, là, jusqu'à philo 1, philo 2 et tout, et qu'on était énormément nourris par la littérature française, guidée par Lagarde et Michard, mais il s'agissait d'en sortir. Et moi, j'allais beaucoup, par exemple, Louis-Ferdinand Céline, on ne nous l'enseignait pas, on fallait le lire en cachette et des choses comme ça. Je pense que chaque génération doit justement trouver ses interdits et les défoncer et aller voir aujourd'hui des écrivains américains que moi je ne lis pas, qui sont les nouveaux écrivains américains, ben j'imagine que les jeunes qui lisent, s'ils lisent, j'espère que les jeunes lisent large un peu, et loin de moi l'idée de regretter qu'une littérature, en particulier celle de la France, qui a une grande histoire, ce ne serait qu'encore la seule à prendre une place un peu disproportionnée.
Mais elle a pris une place importante, a occupé une place importante dans l'entre-deux-guerres, par exemple. Il y a plusieurs...
Une place majeure.
Vous évoquez, et même avant, l'histoire de la littérature en langue française, c'est encore aussi pour une bonne partie l'histoire de la France. Oui. Estimez-vous que la littérature québécoise appartient à cette... entretient un rapport de filiation ou est-elle résolument distincte de la littérature française, historiquement parlant?
Elle est peut-être un peu distincte maintenant, mais historiquement parlant, elle ne l'était pas tant que ça. Tous ceux qui, bien avant moi, on peut penser à des figures comme Nelly Gant, était extrêmement envahi par la littérature française, au point de disparaître lui-même à l'intérieur de ça. Les générations d'Anne Hébert, les générations de ceux qui s'en allaient en France, qui se sentaient attirés par la France, donc par sa littérature et tout. Mais je crois qu'aujourd'hui, quand même, c'est un peu différent. Et on a vu peu à peu, moi je dirais à partir des années 60 peut-être, ce qui est quand même un bon bail depuis une cinquantaine d'années, avec des écrivains comme Jacques Poulain, par exemple, ou des écrivains, même je dirais Ducharme et tout, on a vu que il prenait... Quoique Ducharme, c'est plus compliqué que ça, parce que la littérature française est très présente.
Ouais. Elle est pervertie.
Il l'a grappillée, si on peut dire, et tout. Mais avec des écrivains comme Poulain et comme Gilbert Larocque et des choses comme ça, on a commencé à sentir qu'il y avait ici des écrivains qui étaient portés par une américanité. Quand on lit Poulain, on lit un écrivain nord-américain. Moi, je ne l'appelle même pas un écrivain québécois, je l'appelle un écrivain nord-américain.
Oui. Encore une fois, on est renvoyé aux limites des étiquettes, puisqu'il faut justement presque utiliser des périphrases pour arriver à désigner des gens. Mais tout de même, ces auteurs français que vous citez, il y a Zola, il y a Gide, qui étaient beaucoup lus à une époque. Oui. Et on se dit, par exemple, prenons le cas de Gide, la liberté inouïe de Gide, c'est remarquable, cet esprit qu'on a appelé le contemporain capital, et qu'on pouvait aussi bien détester d'ailleurs que aimer. Alors, sa liberté inouïe sur le plan des idées, des mœurs, de la vie privée, sa famille d'élection, par exemple, plutôt que la famille biologique, eh bien, a-t-elle un équivalent aujourd'hui où tout un chacun peut se pique d'être rebelle ou subversif? Cette liberté n'est-elle pas possible chez un grand bourgeois qui n'est pas soumis à la nécessité de gagner sa vie et qui vivait en plus à une époque où les règles et les convenances imposent encore leurs lois, ce qui est tout de même important si on veut les transgresser?
Oui. Vous soulevez des points importants, dont celui de l'absence de nécessité de gagner sa vie, qui était le cas de Gide. Et ça, c'est rare quand même. c'était peut-être moins rare à l'époque, mais ça aujourd'hui c'est très rare. Et des personnalités comme celle de Gide, autant au niveau de la littérature que de la pensée, de la liberté de penser et tout, c'est quand même assez rare. Encore aujourd'hui, Gide, pour plusieurs, c'est vieux, ce n'est pas vieux, Gide.
Un retour du RSS et d'une...
Oui, absolument.
Et le voyage au Congo.
Oui, le voyage au Congo, retour du RSS.
Le journal.
Le journal, et même ses premiers romans comme Les nourritures terrestres, des choses comme ça, qui ont séduit plusieurs générations. C'était un personnage, je parle de lui aussi, entre autres, lorsque j'aborde son fameux livre Palude. Qui est un petit peu toute proportion gardée, comme le mien, mes digressions. Quand il écrivait Palude, il ne savait pas trop ce qu'il écrivait. Comme moi, quand j'écrivais digression, je ne savais pas trop ce que j'écrivais. Je savais ce dont je voulais parler, mais au niveau de la forme et au niveau de la définition de ce que pouvait être un livre...
Vous avez ainsi à tâtons.
C'est ça. Oui. Alors, Gide, lui, quand même, on parlait du début du 20e siècle, et c'était quand même assez moderne de fonctionner comme cela, parce que les autres modèles autour, c'était des écrivains absolument établis qui entraient dans des formes et des genres tout à fait académiques ou policés, etc. Et la liberté de Gide et la liberté d'esprit, pour moi, me fascine encore.
Vous avez avec raison des mots très durs dans ce livre à l'endroit de ce qu'est devenu Radio-Canada.
Oui.
Qui, écrivez-vous, s'est engagé, et là je vous cite, dans un virage populiste réussi par des carriéristes incultes et cinglés.
Oui.
Que le service public ne soit plus que l'ombre de lui-même, chacun dans le public un peu éduqué le reconnaît. Comment en est-on rendu là?
Oh là là, ça c'est vraiment pitoyable, hein? C'est vraiment pitoyable, c'est de la bêtise. Le chapitre duquel vous tirez ces extraits s'appelle Bêtise. Moi j'ai vu ça se produire, puisque je n'ai jamais été un employé de Radio-Canada, mais à partir du milieu des années 90, j'y suis quand même allé un peu assez souvent comme chroniqueur, et j'ai vu ça détériorer les choses. Et j'ai vu la disparition, qui est un assassinat culturel, à mon avis, de la chaîne culturelle, où il y avait encore possibilité. Nous parlons d'une radio publique, là, nous ne parlons pas d'une radio commerciale. Il y avait possibilité de pouvoir que pouvait s'exécuter là la libre circulation des idées, comme disait Voltaire, avec des émissions, avec des gens comme Stéphane Lépine, comme Jean Larose, qui avaient des émissions où on pouvait recevoir un écrivain durant une heure ou deux, où on pouvait faire le tour, même pas sans la prétention de faire le tour, mais d'apprendre approfondir une écriture, etc., des émissions. Et tout ça est disparu.
Mais tout ça appartient, selon vous, à la radio et à la télé du passé, et c'est illustré à travers Radio-Canada, donc ça sera un phénomène un peu occidental, si on veut l'élargir, ou c'est propre aussi à Radio-Canada tel que nous l'avons connu, tel que nous la connaissons maintenant?
Avec une telle violence, c'est propre à Radio-Canada. C'est une décision, je crois, de Radio-Canada, ou dans la hiérarchie, ça se produit, mais il y a là une décision de trahir une tradition, de briser les ponts d'une tradition, d'éliminer la possibilité que puisse se poursuivre une qualité d'approche littéraire, une qualité de fonction littéraire. Des gens comme Fernand Séguin à l'époque, comme Wilfrid Lemoine et tout, leur métier ne peut plus se développer au Québec parce que c'est à Radio-Canada qu'ils se développaient, et c'est plus possible à Radio-Canada d'essayer de faire carrière ou d'approfondir le métier de communicateur, le métier d'intervieweur, le métier de réalisateur d'émissions, parce qu'on n'en veut plus. On veut du clip, on veut des choses qui vont vite. À Radio-Canada, je peux vous le dire, on ne veut plus entendre quelqu'un parler de littérature qui serait quelqu'un qui aime la littérature, qui la connaît, qui la lit. On veut parler du livre du mois, on veut parler d'une tendance littéraire qui est toujours superficielle et tout. Et on va parler d'écrivains qui seront oubliés dans 10 ans. Mais il n'y a plus de... Et si vous connaissez, que ce soit, je dis littérature, que ce soit en musique ou en différents arts, il y a certains arts d'ailleurs qui n'ont plus accès aux ondes, les arts visuels, etc. Ce n'est plus possible, on ne veut plus de spécialisation. On veut une radio, une télévision populiste.
Oui. Et cette chose assez, cette masse assez difficile à cerner qu'on appelle le public, que dit-il? Parce que toute cette démarche de Radio-Canada et de d'autres médias, d'ailleurs, c'est toujours fait pour se rapprocher, dit-on, du public. Et la disparition de la chaîne culturelle de Radio-Canada s'est faite dans une relative indifférence du public. Il y a eu une mobilisation, mais... il n'y a pas eu de manifestation dans les rues, là, tout de même.
Non, il n'y a pas eu de manifestation dans les rues, c'est évident, mais il y a eu une mobilisation, il y a eu une pétition qui a été signée par près de 40 000 personnes, ce qui n'est pas rien, ce qui équivaut même à l'auditoire qui écoutait presque en entier. Il y a eu des manifestations. J'ai participé moi-même à une espèce de pamphlet collectif contre une radio sans culture, mais c'est vrai que c'en est resté là. Nous avons fait appel au CRT. Le CRTC ne s'en est pas mêlé. Donc, le CRTC a laissé faire le changement de vocation, le changement de barème, etc., de Radio-Canada. Évidemment, c'est... Alors, ces gens-là qui écoutaient, qui sont devenus en deuil d'émissions littéraires, ben, tout simplement, à l'heure de l'Internet, ils sont mis à écouter France Culture, par exemple, ou des choses comme ça. On peut trouver ailleurs, ou on peut lire, tout simplement. Il existe encore des librairies et des bibliothèques. Les gens vont lire, mais ils n'ont plus ces rendez-vous privilégiés que pouvaient être depuis longtemps des émissions que faisait André Major, que faisait Hubert Aquin, que faisait Stéphane Lépine, ce lieu qui est nécessaire.
C'est la vie de l'esprit. Oui. La vie de l'esprit, c'est aussi dans la presse écrite, notamment. Oui. En lisant Digression, revenons à votre livre, en lisant, bon, on ne l'a pas laissé de toute façon, non, en lisant Digression, on pense à Bernard Franck, Angelo Rinaldi, Marcel Reich-Renicki chez les Allemands, ces grands critiques littéraires qui faisaient un avec l'objet de leurs commentaires, dans l'éreintement, comme dans l'éloge. C'est-à-dire que le style, on y revient, fait aussi toute la différence. Y a-t-il encore des lieux, journaux, magazines, je mets à part les revues littéraires, y a-t-il encore des lieux dans la presse écrite, donc, susceptibles d'accueillir une critique soucieuse de forme autant que de fond?
Oh, plus vraiment. Mais si vous mettez de côté les revues qui ont des tirages plutôt confidentiels, c'est sûr que on est obligé de répondre que non, il n'y en a plus vraiment. Il n'y en a plus vraiment. Moi, je ne trouve plus à me nourrir dans la presse, ce qu'on peut appeler la presse générale, ou enfin même les magazines, etc. Je ne trouve plus. Des gens comme vous citiez Bernard Franck, pour moi, c'était comment dire, j'irais presque dire un ami, même si je n'ai jamais rencontré cette personne, mais j'aimais tellement le livre.
Il y avait un rapport de proximité, de connivence, entre le lecteur et le critique.
Absolument, et ça n'existe pas ici. Est-ce que ça existe, ce qu'on appelle les réseaux sociaux et tout? Je ne sais pas, là, moi, je ne me promène pas là-dessus. Mais s'il y a aujourd'hui de l'espoir à ce qu'il puisse y avoir des petits Bernard Franck quelque part, ce ne sera sûrement pas dans la presse à grand tirage.
Robert Lévesque, dernière question. Vos derniers mots dans le livre sont une réflexion sur l'époque morbide qui est la nôtre. C'est dans le chapitre intitulé « Plaisir ».
Oui.
Et il est question notamment des visites à la morgue qui étaient des postes d'observation privilégiés à l'époque de Zola ou de Dickens.
Oui,
on allait à la morgue pour s'instruire sur la nature humaine.
Oui.
Et digression du lecteur, c'est permis, et de la lectrice. Oui. Lisant cela, je retourne à un autre chapitre intitulé « En temps », qui est une méditation, vous l'avez évoqué au tout début, sur une photo de votre mère avant votre naissance, et qui vous renvoie à l'énigme des parents. Oui. Les zones d'ombre, la part de mystère qui subsiste dans une photo sans censée capter le réel et qui échoue, est-elle du même ordre que la part d'ombre qui agit dans la littérature?
Oui, vous amenez très bien le sujet. C'est la même chose. C'est sûr que c'est une part d'ombre dans laquelle il faudra toujours chercher. Et la littérature est une façon de chercher. Et non pas de trouver, dans le fond.
Robert Lévesque, je vous remercie. Je rappelle que vous venez de publier un essai fort invitant sous le titre « Digression aux éditions du Boréal » dans la collection papier collé que tout lecteur normalement constitué devrait avoir envie de lire. Parking Nomade est diffusé à l'antenne de Radio Ville-Marie, à la technique Serge Plaisance, au microphone Marie-André Lamontagne. À la prochaine.